Et je pense que ce soir, on ne pourra pas étudier aussi longtemps que d'habitude. Je suis assez fatigué. Mais enfin, quand même, je ne vais pas annuler le cours. Alors, on va déjà commencer à étudier les différents textes de base qui sont nécessaires pour finalement répondre à notre question. Je ne vais pas reprendre le cours d'introduction, ça vous prendrait trop de temps. Mais je vous précise essentiellement la question qui va nous occuper. C'est-à-dire, à partir de l'événement de la Shoah, et nous aurons, au fur et à mesure de l'étude, la nécessité de rappeler tel ou tel point d'histoire, mais ce n'est pas tellement l'objet de rappeler l'histoire des événements, ça pouvait vous renseigner d'autre part. Seulement lorsque cela est nécessaire pour préciser tel ou tel point de l'analyse. Donc à partir de l'événement de la Shoah, une question principale se pose parmi d'autres, c'est est-il possible de continuer à garder les fondements de la foi juive telle qu'elle était connue jusque-là, plus ou moins, compte tenu de cet événement, c'est-à-dire comment réaménager les fondements de la foi juive de telle sorte d'intégrer dans leur cohérence l'éventualité d'un événement pareil. La question s'est posée à énormément de consciences sous des formes différentes, mais j'essaye de choisir une formulation qui serait la plus simple et la plus universelle, si je peux dire, et peut-être sous une forme banale de telle sorte de mieux la comprendre, c'est comment est-il possible qu'une chose pareille se passe dans le monde que Dieu a créé ? Quelle que soit la notion que l'on a de ce Dieu qui a créé ce monde, cela semble être incompatible. Mais avec un accent particulier concernant la foi juive, c'est que un des éléments, des fondements de la foi juive, c'est qu'une alliance particulière entre ce Dieu qui a créé le monde et son peuple Israël, et nous aurons à voir au cours des études un certain nombre de versets caractéristiques qu'en aucun cas, ça sera réaménagé bien sûr puisque l'événement a eu lieu, mais qu'en aucun cas cette alliance ne sera annulée. Or tout se passe comme si, nous prenons cela comme postulat éventuel, cette alliance a été suspendue d'une certaine manière étant donné la densité, la gravité, l'énormité des événements. C'est la question centrale qui nous préoccupera. En fait, il y a une deuxième dimension que j'ai signalée dans les cours d'introduction, c'est qu'on n'arrivera jamais à comprendre de quoi il s'agit si on ne se rend pas compte que cet événement n'interpelle pas seulement la conscience juive, qu'elle interpelle centralement, puisque l'événement a centralement concerné le peuple juif, mais elle interpelle aussi les fondements de la civilisation contemporaine. Et cet autre aspect reviendra en particulier lorsque nous aurons à faire allusion aux différentes thèses que j'aurai à critiquer, puisque finalement, le bilan de l'étude de la semaine dernière, c'est qu'on a finalement préféré, disons j'ai préféré, si vous voulez, commencer par la fin, c'est-à-dire par étudier les textes de base de la tradition juive, et ensuite, soit en cours de route, soit chacune pour elle-même, nous aurons à reprendre les 6 thèses que je vous ai citées, que je ne rappelle pas ce soir, sans prendre trop de temps, et qui ont tenté de donner une explication à la cohérence du monde, comment continuer à lire le monde, étant donné cet événement, mais la plupart du temps, pas la plupart du temps, les 6 thèses, même lorsqu'elles se présentent comme étant du point de vue, formulées du point de vue de la foi religieuse juive, étant en dehors des catégories de la tradition juive à proprement parler. Je commencerai ce soir par un premier point auquel j'ai fait allusion dans les analyses précédentes, nous allons un petit peu analyser plus, et je vous donnerai une première référence. C'est que je prends peut-être appui sur un des points que nous avons vu tout à l'heure, mais qu'on revoit assez souvent. Cet événement, je vais un peu peut-être élargir la remarque, cet événement est contemporain de la restauration de la nation hébraïque, c'est-à-dire de l'État d'Israël. Il y a un problème en soi de réfléchir, de comprendre de quelle nature est le lien entre ces deux événements. Une des thèses que nous avons à critiquer tombe dans cette erreur qui consiste à dire que l'un est la cause de l'autre, que c'est grâce à la Shoah qu'il y a eu la Tekouma. C'est formulé de différentes manières, mais ça va dans le même sens. Tout se passe comme si, pour ainsi dire, le prix qu'il fallait payer pour obtenir le commencement de l'accomplissement des promesses messianiques, pour ceux qui le voient, et on essaiera de le fonder à ce moment-là, pour ceux qui le voient ainsi, que la Atralta de Geoula, le commencement de la délivrance, selon la formule qui a été adoptée par le grand rabbinat d'Israël en 48, dans la Tfilat Medina, de l'Ishlom Medina, que la Trata de Geoula, c'est le commencement du programme de l'accomplissement des promesses messianiques, que le prix à payer, que la clause, le Tnaï, la condition préalable, était de passer par là. Et nous aurons d'ailleurs à critiquer cette thèse, c'est de façon indue qu'on établit une relation de cause à effet. Nous verrons que ce n'est pas du tout si simple que ça, et c'est même tout à fait le contraire. Mais on ne peut pas ne pas être frappé par le fait de contemporanéité. Ce sont deux événements qui se produisent en même temps, qui sont parallèles. La succession de quelques années entre le temps de l'hitlérisme et 48 où l'État d'Israël a été fondé n'est que trompeuse, et l'événement du sionisme, avec son accomplissement par l'État d'Israël, d'autre part l'événement de la Shoah, avec sa préparation par les pogroms d'Europe centrale et d'Europe orientale, c'est là que commence la période que je situe, l'événement du nazisme n'étant que la phase de paroxysme de ce qui avait commencé en Russie et en Europe centrale, parallèlement à l'apparition du mouvement du sionisme politique. Ces deux événements sont contemporains, sont parallèles et contemporains. Le seul lien, je veux dire contemporain, c'est évident, parce que notre histoire a près de 4000 ans, et que quelques dizaines d'années par rapport à 4000 ans, c'est une seconde. Lorsque deux événements aussi massifs se passent en même temps, à la seconde près, par rapport à 4000 ans d'histoire, c'est vraiment une contemporanéité. C'est clair jusque-là? Et pour le moment, le seul lien que je vais établir aujourd'hui, c'est le fait que les deux événements sont deux événements de la fin des temps d'exil. Pour le sionisme et l'État d'Israël, c'est évident, pour les sionistes, l'État d'Israël, c'est la fin de l'exil. Ça ne veut pas dire que c'est évident pour les juifs de diaspora. Je schématise pour que les choses soient claires. Mais je crois qu'ils ont quand même le pressentiment que quelque chose de cet ordre s'est passé avec l'État d'Israël, quelle que soit la manière dont ils se l'avouent, dont ils le nient, et même lorsqu'on est contre, c'est cela qu'on désigne, que quelque chose de cet ordre s'est passé au bout de 2000 ans d'exil. Et alors, ça me permet de l'indiquer d'abord pour la Shoah, où c'est moins évident, que c'est un événement qui atteint le peuple juif, dans certaines circonstances, nous avons commencé à analyser par une première source, à la période de fin d'exil. D'abord, les références aux deux premiers exils précédents, ça se recoupe avec le cours de tout à l'heure, la fin de l'exil d'Égypte s'est passée dans les catastrophes. Les camps de concentration, ça a eu lieu déjà en Égypte. Les camps de travail du Pharaon, c'était exactement cela. Et lorsqu'on lit attentivement les Midrashim qui nous parlent du sort des Hébreux dans l'Égypte au moment de l'accentuation de la persécution, et je vais vous dire, c'est pas une anecdote parce que je l'ai vécu, je veux dire la réaction que j'ai eue moi-même quand au Talmud Torah j'apprenais ces Midrashim, c'était avant la guerre mondiale. On se disait, on avait beau avoir confiance dans... On était tout mioche, Talmud Torah. Vous avez la chance d'étudier ces choses-là adultes. Alors, on se disait, Midrash, imagination orientale. Le Midrash décrivait les tortures de persécution des Hébreux en Égypte. C'était au niveau du Midrash, pour l'imagination d'un enfant du Talmud Torah, c'était énorme. Mais c'était invraisemblable dans notre connotation du monde de l'humanisme contemporain. Même les barbares de l'Antiquité, on se demandait comment le Midrash pouvait inventer des choses pareilles. On a un petit exemple, que dans la construction des pyramides, quand les Égyptiens n'avaient pas assez de briques, ils prenaient un bébé juif pour ajouter vivant parmi les briques et le mortier. On lisait ça dans le Midrash. Après, plus tard, quand on a appris ce que les Allemands étaient capables de faire, du savon avec les enfants juifs, on s'est rendu compte que ces choses-là peuvent exister dans la vérité. Mais pour revenir formellement à cette définition des événements de temps de fin d'exil, eh bien c'est déjà arrivé chaque fois. La persécution de l'Égypte, c'est le thème en français du massacre des innocents. Comme si la Géoula devait passer par le massacre des innocents. Le massacre des innocents, je l'emprunte à la littérature chrétienne. Enfin, c'est exactement le thème que cela représente, et je crois qu'il y a une tendance de l'habitude, de la conscience pieuse à croire que ça va de soi. A priori, c'est pas du tout fatal, a priori, c'est pas du tout nécessaire, Mais cependant, on ne peut pas ne pas remarquer que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, deuxièmement, le temps de la Megillat d'Esther, le temps commémoré à Purim, où c'était un temps de fin d'exil. Rappelez-vous, la possibilité de mettre fin à cet exil par la décision de Cyrus, qui était la puissance politique de l'époque, puis dans le feu vert, et là commence la grande menace de cette persécution qui a été au fond diluée dans toutes les persécutions qu'on a eues jusqu'à l'époque contemporaine, je veux dire redistribuée dans toutes les persécutions qu'on a eues jusqu'à l'époque contemporaine. D'une certaine manière, si le peuple d'Israël avait été à la hauteur de la fin d'exil du deuxième exil, il aurait été la fin du troisième en même temps. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Mais nous verrons tous les textes à ce sujet, Léa Claire. Dans les minutes, je finis l'idée. Je veux dire, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que les événements de la Shoah sont des événements qui se définissent comme étant des événements du temps de fin d'exil. Pour l'événement contemporain de l'accomplissement du sionisme, c'est évident, en tout cas pour les sionistes, et j'ajoute encore une fois, je répète, aussi pour les autres, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, de loin ou de près, que c'est quelque chose de cet ordre. Et pour la Shoah, ce n'était pas tellement évident, mais c'est ce que nos textes vont établir sur ce premier. Ça va jusque-là? Donc, qu'est-ce que vous dites?
Vous aviez dit une fois qu'au temps d'Abraham, l'événement existait à l'exil.
Très bien, très bien. C'est-à-dire, très bien, avant même l'exil d'Égypte, nous avons encore un exemple modèle, c'est le temps d'Abraham. Ce que les Midrashim nous disent de la sortie d'Abraham d'Okasdim. Abraham met fin à l'exil des Hébreux dans la civilisation d'Okasdim. Sortant d'Okasdim, il est appelé par la Bible Abraham l'Hébreu. Et le Midrash nous montre qu'une seule famille a décroché de cet exil des Hébreux depuis le temps de Shem, le temps de Hever, dans la grande civilisation babylonienne de cette antiquité-là, Ur-Kasdim. Et le Midrash explique que ça veut dire Ur-Kasdim. Or, c'est la lumière. Ur, c'est la flamme, la fournaise. Ur-Kasdim, c'est la fournaise de Kasdim. Et le Midrash nous dit très clairement que Abraham a été jeté dans la fournaise et qu'il n'a été sauvé par miracle. Le thème est très précis. C'est tellement vertigineux comme correspondance. Ça veut dire Abraham était rescapé des fours crématoires de la civilisation de Kasdim. D'une certaine manière, nous sommes une génération d'Abraham par analogie. Okay. Et vous rappelez, quand on faisait les mots croisés, Ur en Kasdim. Vous rappelez de ça, okay. C'est Ur Kasdim. On arrive à faire des mots croisés avec ça. Alors là aussi, les Midrashim restituent cette mémoire de l'événement. C'est-à-dire qu'en un temps de fin d'exil, alors il y a cette éventualité, je dirais, de ce que j'ai appelé en passant le massacre des innocents. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité a priori. Je crois qu'il faut se déshabituer de l'expérience a posteriori. Lorsqu'on a l'expérience a posteriori, et qu'on lit la cohérence de l'événement dans la succession des causes et des effets, on croit que c'est fatal. Mais il faut se déprendre, je ne sais pas si ce mot est français, se déprendre de cela, se défaire de cela. A priori, ce n'était pas fatal. Nous allons voir qu'a priori, il y a deux possibilités absolument différentes. C'est ce point que je voudrais reprendre dans l'analyse. Seulement, on ne peut pas ne pas remarquer qu'a posteriori, ça se passe ainsi, alors et pourquoi ? Je veux dire que ce schème qu'on pourrait avoir, l'exil prend fin dans des catastrophes, a priori, c'est pas fatal. Cependant, il faut bien situer l'événement. Ces catastrophes-là se sont passées, a posteriori, en période de fin d'exil. Et alors, je reprendrai ce schéma en le basant sur un exemple que je vais prendre dans un livre d'un très grand kabbaliste. Ce livre s'appelle « Chesed et Abraham ». Et le maître s'appelle Rav Abraham Azoulay. Et est un très grand kabbaliste de dernière génération. Et je vais vous lire un texte de ce livre qui nous montre que, c'est le principe auquel je voulais arriver, bien qu'a priori, et nous allons en avoir la source dans la Gemara, bien qu'a priori, deux éventualités soient possibles. Soit ce que j'avais appelé l'eschatologie bienheureuse, c'est-à-dire les événements de la fin des temps d'exil, de façon miraculeuse, aisée, dans le bonheur. Ça commence dans les textes des prophètes, comme dans la Torah, c'est où ça, où ça. Ça commence dans la Torah, et ça continue chez les prophètes, ça continue dans la Gemara, ça continue chez les kabbalistes. C'est-à-dire une première ligne où on vous décrit la fin des temps d'exil dans l'émerveillement. Par exemple, ces versets des prophètes, que les princes des nations prendront chaque juif sur leur épaule, sur notre épaule des présents, et les amèneront à Jérusalem. Vous voyez cette espèce de venue du Messie dans le cortège de toutes les félicités et béatitudes. C'est une ligne qui existe depuis l'origine jusqu'à la fin du texte. L'autre ligne, c'est que ça arrive dans les catastrophes. Au fur et à mesure du temps, que le temps passe, depuis cette annonce de cette double éventualité, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on va mettre l'accent sur les textes qui parlent de l'éventualité catastrophique. Vous comprenez la deuxième question que je pose. C'est-à-dire que, premièrement, ce n'est pas fatal a priori, mais cependant, parce qu'il y a deux possibilités, mais cependant, on va voir qu'au fur et à mesure que le temps avance, les prophètes eux-mêmes, et ensuite les talmudistes, et ensuite les kabbalistes, vont garder cette ambivalence possible, mais vont mettre très vite l'accent sur l'éventualité catastrophique, bien que les deux aient été enseignés. Et peut-être qu'il y a eu là une démobilisation de la vigilance, parce que le peuple a peut-être eu tendance à entendre plus l'oreille qui entendait la voix bienheureuse que l'oreille qui entendait la voix catastrophique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais vous comprenez le problème, mais peut-être que cela a désarmé la vigilance. Et en particulier, je vous citerai donc le texte du Chesed Abraham, mais à l'époque de la grande Kabbalah de Safed, nous avons un autre livre que je n'ai pas cité dans cette étude, qui est le Tomer Deborah, qui est un livre du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, et qui décrit avec une précision hallucinante ce qui risque d'arriver si c'est comme ça que ça arrive. Mais là, je vais vous lire simplement une phrase qui indique que cette perspective était déjà connue. Pour répondre à quelle question? C'est que les maîtres de la tradition, et nous verrons dans quelques cours, déjà depuis le patriarche Jacob, à qui cela a été révélé, à travers les prophètes et jusqu'à nous, savaient que dans le monde où nous sommes, il y a cette éventualité-là. Et en particulier, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Et ça répond déjà à l'avance à cette formulation de la question. On a cru que nous étions dans un monde où, homogène à l'idée de Dieu, mais à l'idée de Dieu telle qu'on la connaissait. Mais voilà que nous sommes dans un monde où ça se passe. Donc l'idée de Dieu que nous avions est fausse. Elle est illusoire. Vous comprenez comment je reprends la question dans cette mise au point maintenant. Alors la première parade à cette question, c'est que il s'agit de gens de bonne foi, certainement, mais ignorants, qui ne savent pas que dans la foi hébraïque, dès l'origine, cette éventualité existe. Or, ça rend la question plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire que ce monde où cette éventualité existe? Mais ça rend en tout cas la foi correspondante, que je vous appellerai la foi hébraïque, de portée beaucoup plus grande qu'on pouvait s'imaginer. Qu'est-ce que c'est que cette foi monothéiste qui, a priori, a la clause de cette éventualité-là? De quoi s'agit-il? Vous voyez qu'on va rentrer dans des choses pas simples. Est-ce que c'est clair? J'essaye de les simplifier au possible pour que ce ne soit pas compliqué. Alors, avant de citer le texte, je vois que vous avez trois questions d'inquiétude. Soit une eschatologie catastrophique, dont les massacres. Les massacres et les tremblements de terre.
J'aimerais savoir au cas où il y aurait une fin d'exil heureuse. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par d'autres fins d'exil? Et comment est-ce qu'on peut les faire?
Attends, explique ta question, j'ai pas compris.
J'aimerais savoir si.
C'est la première fois.
C'était aussi d'une bonne ou d'une fin heureuse.
Il n'y aurait pas eu d'autre exil. Il n'y aurait pas eu d'autre exil. C'est une très bonne question. Et ça, nous avons un verset très clair. On l'étudiera si vous voulez. Peut-être que quelqu'un va noter dans une page les références qu'on reprendrait pour la fin d'après, que je vous amène les livres. Qui veut s'en charger? Donc, alors, tu noteras qu'on étudiera le Midrash sur ce verset, puisque, c'est évident que le principe de l'étude, c'est pas une conférence cinéma permanent, c'est un cercle d'étude. Okay? Alors, vous étudiez avec. Okay? C'est lorsque Moïse, au moment de la sortie d'Égypte, demande à Dieu son nom pour savoir qui annonce l'annonce de la délivrance, et que Dieu lui répond « Ehi Asher Ehi », qu'on traduit faussement « Je suis ce que je suis », on fait de la philosophie avec, mais Moïse, c'est pas Socrate, Mais ça veut dire littéralement « je serai ce que je serai » un futur. Et le Midrash dit, va leur dire « je serai avec eux dans les autres exils comme je suis avec eux dans cet exil-là ». Alors Moïse répond « comment je vais leur annoncer pour cette délivrance-là qu'il y en aura d'autres ?» Je ne peux pas. Alors Dieu lui répond « tu as raison, va leur dire « hey, je serai ». Et qu'ils comprennent, comprennent. Vous avez compris le problème. Alors je reprends ta question, qui est vraiment une bonne question. C'est que, étant donné les difficultés déjà de la première sortie d'exil, ça dévoile que dans la racine de notre identité, il y a une résistance à la délivrance dans la ligne positive. Alors c'est l'austérité. Est-ce que c'est clair? Et c'était donc vrai déjà au temps d'Abraham. Parce que je vais préciser quelque chose que j'ai laissé en suspens tout à l'heure. Abraham n'était pas le seul hébreu de la civilisation de l'Orphanie. La lignée de Hever, une sorte d'Israël avant la lettre, était une sorte de peuple juif avant la lettre, de peuple de prêtre de la civilisation d'Urkazdi. Vous vous rappelez, petite parenthèse, qu'est-ce que le Midrash dit du père d'Abraham? Le fabricant des idoles. Le fabricant des idoles, si on l'écrit, c'est très clair, c'est le grand prêtre. Celui qui fabrique les idoles pour ceux qui y croient. C'est le grand prêtre de l'idolâtrie de Stan. C'est-à-dire, voilà comment il joue son rôle, d'une certaine manière. Aucun des Hébreux n'a eu ce courage d'Abraham. Et Abraham est sorti seul. Ça indique déjà qu'il y a une résistance à la Géoula. Est-ce que c'est clair? Alors, mais c'est enraciné plus, au niveau de ta question, à la sortie d'Égypte. Étant donné que la sortie d'Égypte se fait de façon si difficile, les Hébreux ne veulent pas. Que les Égyptiens ne veulent pas, ça on comprend. Mais peut-être que les Égyptiens ne veulent pas parce que les Hébreux ne veulent pas. Hein? Peut-être que c'est difficile du côté des Égyptiens parce que c'est difficile du côté des Hébreux. Et on l'établira. Alors il y a un diagnostic qui apparaît là tout de suite. Il y aura d'autres Hébreux. D'ailleurs, quand on étudie Pessah, on s'aperçoit que si la Torah demande de commémorer Pessah, c'est qu'elle sait qu'il n'a pas complètement réussi. Un événement qui a complètement réussi est intégré, on ne commémore plus. C'est clair, il est irréversible. Un événement qu'on commémore, c'est pour le mener à son achèvement. C'est clair, ce qui s'est passé en Égypte est irréversible, mais inachevé. C'est ce diagnostic-là qui apparaît immédiatement, j'ai pas fini. Alors qu'on ne commémore pas la sortie d'Abraham de Kazi, pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'aventure d'une histoire individuelle et que la tradition de la Bible se fonde pas sur l'histoire des individus, ça c'est des mythes. Ça ne veut pas dire que Abraham n'a pas vécu la sortie d'Égypte. On aurait pu se référer à son expérience à lui, puisque le Midrash nous dit qu'il faisait ça. Vous voyez pourquoi le Midrash le dit. Mais c'est un individu. Et la foi d'Israël ne se base pas sur la vie d'un individu, mais sur l'histoire de la nation collective. C'est comme nation collective qu'Israël est sorti d'Égypte, alors ça commence là. Mais la deuxième raison, c'est que la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim est irréversible. On n'a pas à la commémorer. Seul dans le rite kabbaliste, le rite juif habituel, orthodoxe, a quelques jours dans l'année de commémoration. Le rite kabbaliste commémore tous les événements de tous les jours de l'année. Alors on sait quelle est la commémoration, à quel jour Abraham est sorti d'Orkan. Comme c'est secret, secret terre. Alors, qu'est-ce que disais-je?
La commémoration des événements.
Oui. Le fait de commémorer la sortie d'Égypte l'indique aussi que c'est irréversible à un certain niveau, mais que c'est pas achevé. Donc il y aura d'autres efforts pour arriver à la fin. Donc, notre problème, c'est que la Shoah, c'est l'événement de la fin. Je voudrais encore ajouter une analyse à mon côté. C'est ceci. Je reviens un peu en arrière. Quand je dis événement de fin d'exil, et là je vais poser une question qui va rester un peu en suspens. Événement de fin d'exil, alors nous avons les fours crématoires du temps d'Abraham. Alors nous avons les camps de concentration de l'Égypte des pharaons. Alors nous avons toute cette espèce de très longue histoire de la persécution juive qui aurait dû être, je le formule par rapport à Pourim, si la reine Esther n'était pas intervenue, ça serait fait d'un coup au temps de Mardoché et d'Assuérus. Mais comme la reine Esther a suspendu cela, ça s'est distribué pendant les persécutions habituelles. Et ça, tout ça, c'est la persécution qui n'a pas eu lieu avec Aman. Mais à la fin du troisième exil, elle va avoir lieu dans un paroxysme total. Et si donc nous avons des points de référence, alors on pourrait dire, eh bien c'est pas un événement nouveau. c'est notre mémoire est habituée à cela, il n'y a pas de question nouvelle. Je laisse en suspens parce que je crois personnellement, d'après les études que j'ai faites, que malgré tout, c'est radicalement autre et que ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé avant. Que c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ce jour? La Shoah. Par rapport à tous ces niveaux d'événements analogues de fin d'exil. Et en particulier, nous avions dans notre mémoire la plus proche l'Inquisition. Et l'Inquisition elle-même, toute énorme qu'elle soit, eh bien, c'est une sorte de petite avant-première de la Shoah. Mais la Shoah a des dimensions radicalement autres. Et je laisse comme ça en suspens. Mais pourquoi je tenais à le signaler? Parce que une des plus grandes catastrophes de la réaction de conscience à l'événement, ce serait de banaliser l'événement et de dire, eh bien, ça ressemble à ce qui est habituellement dans l'histoire du monde, un peu plus. Ça s'appelle banaliser l'événement, le ramener à des dimensions soi-disant connues. Même si ça ressemble, il y a quand même des dimensions radicalement autres, parce que c'est peut-être la première fois que cela a été fait à travers une certaine capacité scientifique, c'est-à-dire par des civilisés. C'est pas sorti de la barbarie brute. C'est pas sorti des tendances à la barbarie. C'est sorti de l'intelligence. Et c'est à mon sens la raison principale. Parce que s'il n'y avait pas eu cette intelligence de la civilisation occidentale au service de cela, ça n'aurait certainement pas pris les dimensions d'interpellation des fondements de la foi que ça prend. Parce qu'il y a un vertige de cette systématisation d'une technologie scientifique au service du mal qui n'a jamais eu lieu dans les temps de barbarie. Je ne sais pas si je suis inventé. Peut-être qu'on peut dire de cette manière, la pire des barbaries, c'est l'avoir vu la barbarie des civilisés. Alors là, il y a quelque chose de vraiment autre et qui rappelle ce que j'ai indiqué tout à l'heure, que les fondements même de la civilisation occidentale sont interpellés. Bon. Quelle était... Émilie, chacun dans l'ordre, mais rapidement, j'ai oublié l'ordre.
En corollaire avec la première question, donc, si ça doit être fait par une pathologie de l'apocalyptique...
J'ai pas dit ça doit a priori.
Non, dans la mesure où on n'est pas dans la première position, ça devient intéressant à la mesure que les temps...
Passe, oui. C'est pas grave, ça reviendra si c'est une question. J'ai pas dit ça. La question n'est pas comme ça. Non, la question n'est pas du tout comme ça. Alors, si vous voulez bien, je vous demandais de faire vraiment un effort d'attention, de prendre des notes, d'apprendre par cœur. C'est la leçon du devoir. Mais c'est ceci. Faites attention à la formulation. Parce qu'au fur et à mesure des étapes de l'analyse, ma formulation tient compte de la suite. Vous comprenez? Alors, si vous ne vous rappelez pas les mots exacts que j'ai employés, on est obligé de faire du surplace. La question est comme ça. Comment est-il possible qu'il y ait cette éventualité? Ça ne veut pas dire que Dieu l'a voulu. Je vous donne un tout petit exemple. C'est l'analyse de Maïmonide sur le livre de Job. Et où Maïmonide, je crois que c'est le premier en tout cas qui l'a formulé avec une telle force, où tout le monde se trompe là-dessus, en croyant, et Job lui-même s'est trompé, que c'est Dieu qui lui a envoyé ses épreuves. Si on lit bien le texte, on s'aperçoit que ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé ses épreuves. Seulement la question reste, dans le monde de Dieu, ça est possible? C'est une autre question. Vous avez compris le problème? Alors, il y avait encore... Non, c'était Ronnie d'abord. Pas plus. J'entends pas la question. La sortie de l'exil de Babel. Alors ça, nous allons y arriver dans 3 ou 4 cours. C'est-à-dire, c'est une Géoula avortée. Seulement, ce qu'on fête, c'est pourri. C'est-à-dire, c'est fêté dans pourri. Est-ce que c'est clair? C'est avorté, et nous verrons un texte, tu me le rappelleras à ce moment, tu te rappelleras, qui dit que si la communauté juive était revenue comme il fallait, le deuxième temple n'aurait jamais été détruit. Ça veut dire, on aurait fait l'exil, l'économie du troisième exil. Et ça nous le rend dans un autre texte de la Massefet Sanhedrin. Émilie, pardon, hein? Non, dans cette mesure-là, et vous me rappellerez cette question parce qu'elle est importante, étant donné d'autres sources, ce qui met en question, c'est l'avenir de la diaspora, qu'il faut mettre avec un point d'interrogation angoissé. Parce qu'il n'y a pas de quatrième exil. Il n'y a aucune trace que le retour du troisième exil puisse échouer. Le seul problème, c'est, et Dieu sait que nous avons exploré toute la littérature rabbinique, hein, et elle est colossale, et je vous donnerai des midrashim à ce sujet, le seul problème, c'est à quel prix, mais ça ne peut pas échouer. Donc, la mise en question, c'est celle de la diaspora, ce n'est pas d'Israël, ce n'est pas du Beit Shlishi. Il n'y a que trois grands exils parce qu'il y a trois patriarches. C'est un thème que je reprendrai. C'est-à-dire Israël, en tant que collectivité, rejoue l'épreuve d'identité de chacun des trois patriarches. Nous sommes à la fin de l'épreuve de Jacob, où à la fin de la nuit, il reçoit le nom d'Israël. Et c'est la première fois que nous appelons Israël. Et ça, c'est irréversible. Mais la seule question, c'est à quel prix ? Et je vous raconte une petite anecdote que vous connaissez. C'est à la guerre de Kippour, quand il y a eu cette énorme Taout fatalit, comme avait dit Golda Meir elle-même, je ne sais pas si vous vous rappelez du discours à la télévision le soir de Kippour, qui était dans le pays à la guerre de Kippour. Si vous avez entendu ce discours, elle dit Taout fatalit, une erreur fatale. Et l'erreur fatale, on a mis des années pour deviner ce qu'ils n'ont pas encore vu, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. Je vais vous donner une opinion personnelle, vous pourrez sauter ça dans les bandes, c'est qu'il est possible que le gouvernement d'Israël de ce temps-là se soit mis d'accord avec les Américains pour laisser les Arabes avoir dans un premier temps une illusion de victoire, de telle sorte de leur restituer l'honneur qui ferait d'eux des partenaires d'une discussion pour la paix. Bon, c'est possible. J'en sais rien. C'est très possible. Vous savez pas ce que c'est que des gouvernants et les stratégies. C'est très bien. Ça peut expliquer le merdal énorme qui que, quoi non, lesquels. Vous savez, la naïveté des Juifs, ça fait juste. Bon. D'autant plus que l'interlocuteur qu'on avait, c'est Kissinger, et c'est le paracha pour elle-même, celui-là. C'est pas possible. Peut-être qu'on aura un jour l'explication réelle de ce qui s'est passé, mais c'est pas ça que je voulais citer. Ce que je voulais citer, c'est le troisième jour de la guerre, je crois, que... comment s'appelle-t-il ? Moshe Dayan, pourquoi il a oublié ? Moshe Dayan avait l'intention de faire un discours à la nation pour dire « Attention, le Beit Shlishi est en danger. » Et que c'est Golda Meir qui l'en a empêché pour pas affoler les populations. Mais comment ça se rattache ? Ça veut dire cette tentative du sionisme, l'État juif, le Beit Shlishi, la troisième maison d'Israël, est perdue. Et elle ne sera jamais perdue. Remarquez une chose, c'est que grâce au courage d'une poignée de soldats, et puis le miracle, c'est ce miracle impossible à définir à tel point qu'il passe à travers les lois naturelles. Hein? Et le Beit Shlishi n'a pas été touché, la guerre ne s'est pas passée sur le territoire d'Israël, un petit peu au Golan, un petit peu en direction de Tibériade, un petit peu au Sinaï, mais même cette terrible inquiétude qu'on aurait pu avoir à ce moment-là, eh bien, on s'en est sorti. Vous comprenez ce que je veux dire. Retenez bien cela. Il n'y a pas d'éventualité, dans les textes en tout cas, ni les prophètes, mais les textes sont les textes de la destruction du Beit Shlishi qui commence avec nous. Maintenant, la question qui reste, c'est à quel prix ? Et ça, nous aurons un texte à ce sujet.
Et vous prenez les trois écrits, mais nous savons par la tradition qu'il y a eu quatre.
Les Kohen.
Babel, Arad, Yavan.
Non, je représente. Il y a eu quatre empires. Et à travers ces quatre empires, il y a trois exils. C'est clair. Suivant les sources, c'est Yavam qui est ajouté avec Rome. Donc, et ou bien c'est Parasémadaï et Babel est renvoyé au temps d'Abraham, préhistorique. Alors, je reviens à notre problème. Où on en était des questions ?
Je fais la question d'abord.
C'est corollaire. Pour la même raison que la Géoula n'a pas été Shlema, pour la même raison, Amalek redresse la tête. C'est-à-dire, comme on appelle ça, l'hydre de l'herbe. C'est ça, hein? Si je me souviens de mes études françaises. Mais le chat a cette queue, j'en sais rien. C'est-à-dire, c'est exactement pour la même raison. Et nous allons voir, on va y arriver très très rapidement, que cette mise en doute, elle est la plus grave quand elle est au nom de la Torah. Cette mise en doute qui fait venir à Malek. J'ai dit ça pour ceux qui ont suivi ces problèmes. C'est-à-dire cette espèce de résistance à la Géoula, elle est la plus grave quand elle est au nom de la Torah. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Mais ça sera repris très en détail. Alors, je vais d'abord vous lire, s'il n'y a pas d'autres questions. Ken? Oui. Attendez, lequel chemin? Non, explique-toi plus. Je comprends pas la question. Elle est sûrement pas hors sujet, mais explique plus. Attends, ne dis pas trop chose à la fois. La première partie, ça suffit, c'est dans ton sujet. Et le reste est de trop. Ça, certainement. Certainement. C'est-à-dire que déjà à l'origine, on voit ce thème que la naissance, la mise à jour, les Otsilao, comment on traduit ça? Les Otsilao. Non, les Otsilao. Non, sortir au jour, okay? Sortir de la nuit, je ne sais pas comment dire, se fait dans des difficultés. Okay? Mais, encore une fois, ce n'est pas a priori nécessaire. Ce n'est pas a priori que le premier homme devait sortir du paradis à coup de pied, enfin je veux dire expulsé. Okay? Ce n'est pas a priori. Il devait sortir pour faire son histoire. Mais il aurait pu sortir sans claquer la porte. Okay? Ce n'est pas a priori. Et je reviens sur tous ces récits. Je reviens à la question de méthode que j'ai signalée au début. C'est vrai pour toutes les études des récits historiques et historiques de la Bible. Lorsque nous les étudions de plus en plus profondément, et plus et au fur et à mesure que la cohérence du récit nous apparaît comme absolue, comme évidente, alors apparaît aussi cette apparence de fatalité, que c'est comme ça que ça devait se passer. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Comme nous savons comment c'est arrivé, alors on croit que c'est comme ça que ça devait arriver. Pourquoi? Parce que l'étude nous montre que c'est d'une telle cohérence dans la suite des propositions des causes aux conséquences, que c'est d'une telle cohérence apparemment mathématique, hein, peut-être plus que ça, qu'on a cette impression de fatalité, que c'est comme ça que ça devait arriver. La seule consigne qu'on peut donner pour se défaire de cette impression, et je sais que c'est inopérant, à moins d'être vraiment d'avoir vraiment intégré ce principe de l'a priori de la liberté, et de ne pas se laisser aller à l'impression de fatalité, c'est de lire un verset dans le postulat que je ne connais pas la suite. Or, quand on la connaît, la suite, c'est difficile. Vous comprenez? De lire le récit pas à pas. Et à chaque pas, ça aurait pu bifurquer comme ça ou comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé, a posteriori. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et en plus, c'est répétitif, bien sûr. Mais à chaque cas, à chaque pas, si j'ose dire, il y a un carrefour de liberté. Je crois qu'on va en même temps se battre avec ce problème-là pendant toute cette étude. Le fait que, puisque c'est arrivé, ça devait arriver. Ça, c'est pas le judaïsme. Sachez-le à priori. Hein? C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas cette lucidité, cette maîtrise de la conscience, qu'à chaque pas, quel que soit le kirsum, comment on dit kirsum, l'érosion de la marge de liberté, la peau de chagrin, je sais pas comment dire, le sursaut de la reconduite, si j'ose dire, est possible. Seulement, effectivement, pèse sur nous, de façon massive, le fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Et que non seulement que c'est comme ça que c'est arrivé, il semble que quand ça arrive, c'est comme ça que ça arrive. Mais encore une fois, il n'y a rien de répétitif. Malgré l'apparence répétitive du récit. Okay? C'est pourquoi il faut toujours, ça, c'est une consigne d'étude, mais elle est difficile. Il faut toujours citer chaque verset à son niveau historique exactement comme il est écrit. Les versets de la Megillah ne sont pas écrits exactement comme les versets de la Torah de la sortie d'Égypte, et etc., etc. Ça veut dire qu'il y a on peut pas traduire ces choses-là approximativement, parce qu'approximativement, ça va tellement ressembler qu'on croit que c'est la même chose, alors que c'est jamais la même chose. Seulement, il y a des lignes de structure qui sont analogues. Est-ce que c'est clair jusqu'à donc? Quoique, il y a un problème de phénomène de saturation. À partir du moment où il y a une saturation de l'habitude, et elle vient par le processus répétitif. Alors le piège se referme, l'habitude est scellée, c'est fini, la liberté a disparu, et il faut intervention de l'extérieur. C'est plus entre nos mains, parce que le piège s'est refermé. Est-ce que c'est clair, je dis là ? Bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais citer ce premier exemple. Voilà ce que dit le Chesed de l'Abraham en disant ceci. Bessof galoutenuze, à la fin de ce galout-là. Et je vais vous dire, quand il a vécu, le Chesed de l'Abraham a vécu 1570-1643. Donc il est au 17e siècle. Hein? 17e siècle. Il a vécu à Sfar. C'est marocain d'origine, c'est un très grand kabbaliste, et c'est le Rav Abraham Azoulay. Le conseil de Rav, le Rav Hida, c'est aussi le Rav Haïm David Azoulay, c'est un de ses descendants. Et il dit, donc il y a longtemps, il dit ceci, « Bessov galoutenuze, à la fin de cet exil-là, karov lizmanake, près du moment de la fin de l'exil. » Suivez bien les dates, hein? Karov l'isman aketz. On ne peut pas ne pas remarquer tout de suite, sans que j'ai besoin de vous citer les dates, que c'est de la prophétie absolue. Okay? Enfin, c'est comme ça que c'est arrivé. Or, il enseigne ça trois siècles avant. Okay? La question n'est pas d'où il le sait. C'est un kabbaliste. Donc, il a le secret. La question est, pourquoi c'est ça qu'il dit? Vous comprenez ma question? Pourquoi c'est cette voix-là qu'il va dire? Et avec lui, les kabbalistes de son temps, qui ont espéré que l'école du Hari, du Hari HaKadosh, est un mérite suffisant pour dénouer cette éventualité-là, mais il y a eu échec, et le Hari avait prévenu que s'il y a échec, il y a échec, et vous comprenez pourquoi je parle comme ça, c'est pour ne pas en dire plus, il n'a enseigné qu'un an et demi, le Hari. Et il y a eu, nous connaissons les causes de cet échec, mais l'école du Hari aurait pu réussir, et alors ça aurait fait basculer la fin des temps de l'exil dans l'autre eschatologie, l'eschatologie bien heureuse. Et c'est pourquoi les élèves du Hari ont dit que le Hari aurait pu être le Machiav ben Yosef. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire, aurait pu être le Machiav ben Yosef? Ça veut dire qu'il l'était, mais ça n'a pas réussi parce que les circonstances de mérite de la génération n'étaient pas là. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, si vous entendez ça, que le Hari était le Machiav ben Yosef, voilà ce que ça veut dire. Okay? Et donc, lorsqu'on a perçu cet échec, le Molcho, son élève, le Rav Chaim Vital, le raconte très abondamment dans les livres où il redonne l'enseignement de son maître, que le maître, le Hari, les avait avertis, et que finalement, ça a basculé là. Alors, encore une fois, c'est arrivé que c'était l'échec. Ça ne veut pas dire qu'à posteriori, il n'aurait pas pu réussir. Nous allons essayer de traquer jusqu'au bout qui est responsable de ces échecs. Où est la responsabilité? Okay? Et nous allons voir plusieurs dialectiques de problématiques. Et vous allez avoir une surprise de ce que la Gemara dit de cela. Qui sont les responsables? Je laisse le suspense absolu. Mais de toute façon...